Aleluya. Je remercie Dieu parce qu'il a toujours à cœur de nous parler. Et c'est bien quand il y a des journées spéciales, qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Parce que des fois, quand c'est la réunion d'affaires, quand c'est Noël, les gens ils sont absorbés par toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, c'est plus difficile d'apporter la parole. Mais ce matin, Dieu a vraiment bien préparé nos cœurs. Et ce que j'ai comme message, j'ai eu comme trois sources d'inspiration cette semaine pour apporter ce message-là. La première, c'est lorsque j'ai lu l'épître aux Hébreux, parce que j'avais eu, à cause de certaines circonstances, les feuilles qu'on va avoir dans les semaines qui viennent, pour ceux qui les veulent. Et ça parlait de lire, la première leçon, c'est de lire l'épître aux Hébreux d'un trait, d'un bout à l'autre. Et je me suis dit, ouais, je vais faire ça. Je me suis assis, j'ai regardé, je me suis chronométré pour savoir combien de temps ça prend pour lire 13 chapitres. C'est sûr que ça dépend de chacun, parce qu'il y en a qui lisent un peu plus vite, d'autres moins vite. Et je me suis rendu compte que ça m'a pris un peu plus qu'une demi-heure pour lire les 13 chapitres. Et je me suis dit, je vous encourage, il y a 13 chapitres à 2 chapitres par soir. Ça fait combien de minutes par soir? 13 divisé par 2, 6,5, disons 7. 7 divisé par une demi-heure, ça fait à peu près 5 minutes, même pas. Donc, si vous prenez 10 minutes par soir, je vous conseille de... S'il y en a qui ont une bonne concentration, lisez-le d'un trait, mais à un moment donné, la concentration diminue. Mais prenez 10 minutes par soir. C'est une question de discipline. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je dis, on veut tout le temps se discipliner. On veut prendre du temps pour prier. Mais la chose la plus difficile, c'est pas de savoir comment faire. C'est de le faire. Et je veux juste vous encourager. Et à travers ça, ça a été ma première source d'inspiration. Et ensuite de ça, ça a été un témoignage d'une consoeur de travail de mon épouse qui lui parlait de quelque chose qu'elle avait vu dans un film et qui parlait de certaines situations que des gens ont vécu, des abus, spécialement par des gens qui étaient des représentants de Dieu. Ça se passait aux États-Unis, dans la ville de Boston. Et après avoir écouté ce film-là, ces deux personnes-là, l'homme et la femme, veulent se marier à l'église catholique, mais après avoir écouté ça, le gars il a dit, moi je veux plus me marier. Ça l'avait vraiment impacté et ça l'a amené à avoir beaucoup de tristesse. Suite à ça, on a décidé de louer ce film-là et de voir ce qui était dans ce film-là. Et je ne peux pas dire que c'est absolument la vérité, mais je sais que c'est très possible que ce soit la vérité, malheureusement, qui a amené des gens à se méfier des gens qui vont dire « on fait partie d'une institution qui s'appelle une église ». Et j'ai vu dans tout ça, et c'est un film qui est très populaire, qui a même eu des Oscars, ce film-là, et beaucoup de gens qui vont le voir, mais c'est important de prier pour que les gens qui voient ça, ils voient vraiment ce que Dieu veut montrer à travers ça. Ça a été ma deuxième source d'inspiration. Et la troisième, c'est un beau tableau que j'ai vu en allant à la Belle cette semaine. Vous savez, avec la route qui a été faite, qui évite les villages, les gens du ministère des Transports, ils ont fait des belles sculptures dans les villages, surtout dans les montagnes. Ils ont coupé des montagnes et je trouve ça laid. Tellement laid. Si vous arrivez à l'Annonciation par la deuxième sortie, là, à la Belle, c'est la même chose. Mais j'ai été extrêmement béni cette semaine, c'était ma troisième source d'inspiration. De cette laideur-là est sortie une beauté. Cette beauté-là, c'était à cause de la neige et du vent. Autrement dit, à cause de Dieu qui a sculpté. J'ai trouvé ça tellement beau. Ça faisait une super belle murale sculptée de toutes sortes de façons. Et lorsque j'ai sorti du village de la Belle, à l'autre bout, ils ont fait la même chose. Ils ont dynamité, ils ont brisé des rochers. Mais là, il y avait un rond qui avait été fait par le vent extraordinaire. Et qu'est-ce qui m'est venu comme inspiration qui serait le titre de mon message? De la laideur à la beauté. Dites à quelqu'un à côté, c'est un super bon titre. Mais avant de devenir de la laideur à la beauté, et ça m'a vraiment impacté de voir comment les œuvres des hommes peuvent amener de la laideur. Dans le paysage que Dieu a créé, et on a chanté ce matin, je me suis dit, oui, c'est ça, Seigneur, j'étais bien inspiré. Toutes les beautés de la terre. Et je peux dire que j'ai eu le privilège de travailler pendant longtemps, de grandir sur une ferme, premièrement, et de travailler pendant longtemps dans le bois, et j'ai tellement vu de merveilles de Dieu. Tellement que l'homme aussi, encore là, a su maganer pour amener une laideur. Mais Dieu, il est capable de transformer la laideur en beauté. Et ça, je me suis mis à méditer là-dessus. Je me suis dit, waouh, que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin en tant qu'être humain, parce qu'à partir d'Adam et Ève, il y avait la beauté, il est venu la laideur du péché, la honte, la culpabilité, et les meurtres, les mensonges, les vols, les abus de toutes sortes. C'est venu, mais au début, c'était la beauté. Il est venu la laideur. Et Dieu a vu tout ça, et il a envoyé Jésus. Et ça dit dans Hébreux, il y a un passage qu'on va aller lire, mais ça dit aussi dans le premier épître de Jean, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans une autre version, ça dit, Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'était de se rebeller contre Dieu. Et à partir de la rébellion, ont découlé plein de mauvaises actions qui ont insufflé aux hommes le mensonge, le meurtre et tout ça et tout ça. Donc, Dieu a vu vraiment que le monde était dans la laideur du péché et a envoyé Jésus pour détruire les œuvres du diable et ramener la beauté de Dieu. Et on va aller lire un passage que j'ai lu dans Hébreux cette semaine. Ça se trouve dans le chapitre 2. Et je vous encourage à être ici mardi soir. Si vous avez prié dernièrement pour dire « Dieu, je voudrais prendre la discipline », Dieu répond directement à votre prière. Mardi, 7h30 ici. Vous êtes content? Ah oui, dites un petit amen pour ceux qui ont prié comme ça. On en veut la discipline, on veut de quoi? On veut que la prière soit... Bien, on prend des rendez-vous divins. Donc, Hébreux, deuxième chapitre. Verset 14, ça dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, en parlant de Jésus, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en être, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tenter. Donc, on a entendu quelques bonnes paroles ce matin, comme quoi que Jésus lui-même intercédait pour nous, et Jésus nous comprend très bien. Et c'est des paroles qu'on a entendues qui sont des encouragements, et parce qu'il y a des gens qui vivent des découragements. Et ça nous fait juste me montrer, j'ai dit, Dieu, tu sais vraiment comment on est. Tu nous connais vraiment personnellement. Et merci, Seigneur, parce que peu importe la laideur de notre expérience de vie, qui nous est venu à cause du péché de certaines personnes, à cause du péché dans le monde et à cause de Satan que le pouvoir de la mort, qui est le prince de la puissance de l'air et qui fait tellement de mal. Moi, je dis merci Dieu d'avoir envoyé Jésus et merci Jésus d'être venu pour détruire les œuvres du diable. Merci Jésus parce que tu nous délivres de la puissance du diable qui nous retient captifs. On a peur, on est dans la crainte, on est dans la culpabilité, dans la honte, on est dans toutes sortes de mauvais sentiments, d'états de cœur tout bouleversés à cause des œuvres du diable, du péché qui s'étend à toute l'humanité. Ce n'est pas juste quelques personnes là, ici à Mont-Tremblant. Là. C'est partout dans le monde, la même chose. Donc, c'est extrêmement important de dire merci, merci Dieu d'avoir envoyé Jésus et merci Jésus d'être venu transformer la laideur de mon cœur. Parce que le péché, faut pas se le cacher, c'est laid. Ça l'amène de la laideur. Pour transformer ça en beauté. Et comme cette murale-là, je l'ai encore quasiment dans ma tête, dans ma mémoire émotionnelle, de voir comment ça, Dieu avait sculpté ça avec le vent. Puis je me suis dit, s'il y a quelque chose à changer en nous, ça va être simplement par la puissance du Saint-Esprit. Il va façonner nos vies, dans le sens que ça va devenir, pour les gens qui nous entourent, un chef-d'œuvre. Wow! Je suis content d'être un chef-d'œuvre. Dites ça fort. Je suis content. Dieu change ma laideur en beauté. Tout ce que j'ai vécu, comme qui m'a vraiment... Pour défaire des montagnes, là, ça prend de la puissance. C'est de la dynamite. Mais le Saint-Esprit a la même origine du mot grec qui est dynamus, qui veut dire pouf, ça explose, ça change. Et après que les gens ont passé avec de la dynamite, le paysage change. Et je trouve ça, c'est ça que je disais tantôt, tellement désolant, tellement laid, mais Dieu, il est capable. Et à chaque fois que je passe là, ma femme a dit, je le sais, dis-le pas. Elle me connaît, mais hein? Et je suis radoteux, mais t'es ça. Quand je suis impacté par quelque chose, je le dis souvent. Mais je suis tellement désolé de voir ça. Mais là, je remercie Dieu. Juste un petit paysage comme ça, pour me faire du bien. Mais Dieu, ce matin, il veut juste vous dire, je veux te faire du bien. Peu importe la laideur de ton expérience, qui souvent nos expériences, c'est les péchés des autres qui se manifestent dans nos vies. Il y a nos propres péchés, mais très souvent, les péchés des autres affectent notre vie beaucoup. Donc, Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus a paru pour libérer ceux qui étaient retenus captifs. Je vais juste le répéter. Jésus est venu afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et à cause du péché, on est retenu dans une servitude quelconque. Il y en a que c'est plus apparent, il y en a que c'est moins apparent, mais on est retenu dans une servitude et on n'est pas libre. Et les gens, ils crient à la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas. On veut être libre, parce qu'ils ressentent, dans le fond, d'eux autres mêmes, ils ne sont pas libres. Et c'est à cause de quoi qu'ils ne sont pas libres? C'est à cause de la puissance du diable, qui a le péché qui... Pierre a dit tantôt, si le péché abonde tellement dans nos vies, la grâce surabonde, mais merci Seigneur. Ça, c'est la beauté de Dieu. Donc, on va voir un autre passage dans Actes 26. Actes 26. C'est l'apôtre Paul qui est devant le roi Agrippa et qui est en train de lui raconter son expérience. Et on apprend des choses qu'on a appris samedi, il y a deux semaines, quand il y a eu la rencontre pour les chantres et les musiciens. Acte 26, on va lire du verset 13 au verset 19. Et c'est Paul qui est devant le roi Agrippa, il lui dit, « Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpasse celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen. Ici, là, l'apôtre Paul est en train de raconter son expérience et je vous encourage à vous rappeler ce que vous avez vécu quand vous avez été vraiment touché par le Seigneur. et à pouvoir le partager avec quelqu'un. Ici, par contre, l'apôtre Paul était comme un peu poussé. Des fois, Dieu nous pousse un peu. Et là, il est en train de nous raconter qu'il avait eu toute une expérience. Puis Dieu lui a dit la raison pour laquelle il s'était révélé à lui, pour qu'il puisse passer, afin que tu puisses, Paul, il va témoigner aux gens pour qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière, de la laideur à la beauté. Sous la puissance du diable ou sous la puissance de Dieu? Il y a deux sortes de personnes sur la terre. Il y en a qui sont sous la puissance du diable, il y en a qui sont sous la puissance de Dieu. Il y en a qui sont dans les ténèbres, il y en a qui sont dans la lumière. Il y en a qui marchent par la chair, il y en a qui marchent par l'esprit. Il y en a qui ont honte, il y en a qui sont honorés. Il y en a qui sont esclaves, il y en a qui sont libérés. Il y en a qui se sentent coupables, mais il y en a qui sont justifiés. Il y en a qui sont dans l'angoisse, et Dieu donne la paix. On a entendu ce verset-là ce matin. Il y en a qui sont dans l'inquiétude, et Dieu donne de l'assurance. Et c'est l'histoire de l'humanité. Ténèbres, lumière, mort, vie. Et Paul a très bien fait son travail. Il a été choisi par Dieu pour annoncer la parole. Et la parole apporte la vie. La parole, c'est la lumière. La parole, elle apporte la liberté. Elle apporte plein de choses qui nous fait du bien. Amen. Donc, j'ai dit, on passe de la honte à l'honneur. Et on va aller voir un verset qui nous dit ça. Dans Jean. Et j'espère que vous avez expérimenté, que vous êtes vraiment clair que ce qui s'est passé dans votre vie, là, vous êtes passé des ténèbres à la lumière parce que vous avez cru en l'œuvre de Jésus à la croix. Vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie. C'est important, là. Et j'espère que vous expérimentez un peu toutes ces choses-là que je viens de dire. Dans Jean 12, verset 26. Jean 12, 26, c'est Jésus qui dit ceci. « Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et je voudrais vraiment que ce soit clair pour chacun ici. On va voir la réunion d'affaires cet après-midi. Il y a des personnes qui offrent service à l'Église ici. Et c'est important de reconnaître que c'est un honneur que Dieu nous accorde de le servir. Pas parce qu'on est plus intelligent, quoi que ce soit. Dieu nous accorde un honneur. Et c'est important parce que avant ça, on vivait dans la honte. Et justement, dans le film que je parlais tantôt, il y avait des gens qui dénonçaient pas ce qui se passait parce qu'ils avaient honte. Il y avait le témoignage, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les médias de ce temps-là, le témoignage d'une femme qui avait vécu quelque chose avec son beau-père et qui a dit « Je n'osais pas le dénoncer parce que j'avais honte ». Et elle a vécu un processus. À un moment donné, elle est devenue vraiment dysfonctionnelle, cette femme-là. Elle dit, j'étais en burn-out. Elle avait peut-être 40 quelques années. Parce qu'il y a eu un événement qui est arrivé qui l'a refait vivre ce qu'elle avait vécu quand elle était jeune. Et elle a eu un processus. Et les gens, dans les niveaux psychologiques, savent très bien que des personnes qui vivent des chocs qui sont post-traumatiques. À un moment donné, ça peut se déclencher tellement puissant qu'ils deviennent même plus capables de travailler, étaient déclarés invalides, puis physiquement étaient en santé. Son esprit était complètement déconnecté, il n'était plus capable de... Elle dit, je rêvais de ça, je ne dormais plus la nuit. Et ils ont présenté un processus pour qu'elle puisse avoir de la réconciliation, pour qu'elle arrête de penser que c'était de sa faute. Et elle a rencontré quelqu'un qui lui avait abusé de quelqu'un, et lui a dit... Il dit, je voudrais tellement être capable de demander pardon à ces personnes-là, mais je ne suis pas capable. Puis il dit, il veut vraiment que tu... Lui, ce monsieur-là, qui était rendu peut-être à 70 ans, qui avait fait des abus, il dit, c'est vraiment pas de ta faute. Et elle dit, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'avoir honte de me sentir coupable. Ça l'a pris un processus parce qu'elle n'était plus capable. Elle était bloquée là-dessus. Et il nous arrive ça en tant que chrétien. Notre âme a été traumatisée, il y a eu des blessures et on focus là-dessus. Mais Dieu veut vraiment qu'on arrête d'avoir honte de quoi que ce soit. Et l'apôtre Paul aurait pu avoir honte. Il dit, moi j'étais un persécuteur de l'Église. Puis Jésus dit, qui t'es là? Paul il dit, c'est qui? Je suis ce Jésus que tu persécutes. Puis Paul il dit un peu plus tard, il dit, j'ai poursuivi, il dit, j'étais zélé, j'étais rendu que je les poursuivais dans des villes rendues à Dallas, qui s'en allait pour les chercher. Il en a persécuté à Jérusalem. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il en a fait jeter en prison. S'il y avait quelqu'un qui aurait bien pu avoir honte de quelque chose, c'était lui, là. Mais Dieu l'a fait passer de la honte à l'honneur de le servir. Et je voudrais que ce soit clair pour vous dire, peu importe ce que j'ai vécu ou ce que j'ai fait vivre, parce que les abuseurs aussi ils portent un poids et ils ont besoin de pardon. Ils ont besoin aussi de le confesser. Ils ont besoin de Dieu qui les guérisse parce qu'ils ne sont jamais guéris autrement. Les psychologues, ils peuvent arriver à dire, c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais il n'y a aucun pouvoir de le faire. Ça prend vraiment la puissance du Saint-Esprit. Donc, passer de la honte à l'honneur. Et Isaïe, il dit la même chose, si vous voulez aller voir dans Isaïe 49,5, il dit, c'est un honneur de te servir, Dieu. Tu m'honores de m'utiliser. Et Marie, elle a dit la même chose. Elle dit, pourquoi que tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante? Qui je suis, moi? Dieu a choisi. Mais elle s'est sentie honorée. Donc, c'est important de dire, en tant que chrétien, on est honoré. On est passé de l'esclavage à la liberté. L'esclavage du péché retenait les gens captifs toute leur vie. Et on va le voir dans Galates. Galates. L'apôtre Paul, il savait ce qu'il disait parce qu'il l'avait vécu. Et Jésus sait ce qu'on vit parce qu'il y a eu un corps de chair comme nous. Galates, 5e chapitre. Le verset 13. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux gens de l'église de Galates, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Amen. Donc ici, il y a des gens qui prennent la liberté. Paul est en train de dire, c'est pour la liberté que vous avez été rachetés. Mais faites attention de ne pas prendre ça comme un prétexte pour faire ce que vous voulez. C'est la liberté de servir le Seigneur. Amen. Et on n'est plus esclaves. Dieu nous donne la puissance de sortir de là. Et la culpabilité, condamnation, culpabilité, ça c'est la laideur. Et la beauté de ça, c'est la justice. Parce que dans Romains 1, ça dit « étant donc justifié par la foi ». Quelque chose là. On n'a rien fait. Et pour vraiment établir ce principe-là très puissamment, quand Jésus était crucifié, il y a eu deux brigands. Il y a des gens qui disent le bon puis le mauvais, mais c'était deux mauvais. C'est des choses qu'il faut vraiment reviser dans nos pensées. C'était deux mauvais. Sauf qu'il y en a un qui a vraiment reconnu que Jésus pouvait le justifier. Et il a cru. Ça dit, étant donc justifié par la foi, on a la paix avec Dieu. Et il a été justifié parce que Jésus a dit, au jour du même, tu vas être dans le paradis avec moi. Puis il n'y a aucun injuste qui hérite du royaume des cieux. Il faut faire une équation. Donc il a été justifié parce qu'il a cru vraiment en disant, nous on mérite ça, mais lui il n'a rien fait de mal. Il reconnaissait vraiment que Jésus c'était le Messie, qu'il pouvait le sauver. Donc c'est important. C'est lui, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Donc ce brigand-là, il n'a pas pu rien faire pour réparer ses torts. C'est ça la leçon de tout ça. T'acceptes Jésus, mais là, c'est sûr qu'il y a des situations particulières pour chacun de nous. Parfois, ça peut arriver qu'on ait des torts à les corriger. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va être justifié. C'est pas nos œuvres, c'est notre foi. Que ce soit bien clair. Amen. Puis dans la condamnation, ça c'est tellement facile de tourner sur la condamnation qu'on est capable même de se condamner nous-mêmes. Jésus dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Merci Seigneur d'être plus grand que mon cœur. Puis dans Romains 8, 1, ça dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont nés de l'Esprit, conduits par l'Esprit. Il n'y en a plus de condamnation. Il y a une loi qui enlève la condamnation. Puis ça, les gens, ils vivent aussi là-dessus. Puis parfois, les chrétiens, le diable, il a tendance à nous mettre ça dans la face, dans nos pensées. Quand qu'est-ce que tu as fait? T'es sûr que Dieu t'a pardonné? Il aime ça, jouer dans ça, là. Mais, dit Dieu, ça c'est laid, ça c'est ma vie laide que j'avais avant. Maintenant, Dieu, tu m'amènes à une vie de beauté. Et de l'angoisse à la paix. Les gens sont angoissés. Et plus ça va, pourquoi ce tumulte parmi les nations, que c'est dans le psaume 2, pourquoi cette angoisse parmi les nations? Et les nations, plus ça va, plus ils s'inquiètent. Plus il y a des menaces de gauche et de droite. Et plus il y a des choses qui leur échappent, qui n'ont plus de contrôle. Et là, c'est la nature qui s'en mêle. Oh boy, là, c'est plus grand que nous autres, là. OK, l'angoisse. Qu'est-ce qui va guérir l'angoisse? C'est la paix. Et il n'y en a plus de paix. Il y a quelqu'un qui va dire à un moment donné, oui, paix, paix, paix. Ah là, là, tout le monde va dire, OK, ça y est, on est correct. Mais soudain, une ruine soudaine. Pouf, ça va arriver, bouf. C'est de la tromperie. Il y a juste Jésus qui peut vraiment amener la paix. Il y a des gens qui peuvent nous dire, oh, faites-en pas. Ouais. Bien facile. Oui, c'est bien facile de le dire. Tu sais pas ce que je vis. Dieu nous offre la paix en Jésus, je crois. Et ça dit, le verset qu'on a entendu ce matin, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle va garder nos cœurs. Il y a des situations où on n'est pas capable de garder nos cœurs. On est inquiet, on est ballotté, on est angoissé, on entend de mauvaises nouvelles. Oh! Mais la paix de Dieu. Donc, peu importe la catastrophe qui est devant nous ou la laideur de cette chose-là, Dieu nous offre la beauté de sa paix. Wow, je suis en paix avec Dieu. L'inquiétude, l'assurance, c'est la même chose. On peut être inquiet de bien des choses. Hébreux 4. J'ai pris quelques versets de Hébreux, ben, j'aurais pu en prendre beaucoup. Mais juste quelques-uns. Hébreux 4, verset 16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance. » Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Pas de s'inquiéter. On a entendu quelque chose ce matin, c'est qu'on se sent peut-être pas à la hauteur, on se sent peut-être pas digne. Encore là, on pourrait dire de l'indignité à la dignité. Dieu nous fait passer, il nous change de quelque chose. Des ténèbres à la lumière, c'est tout un changement. De la mort spirituelle à la vie, c'est tout un changement. C'est une vie nouvelle. Mais plein de choses que Dieu veut changer dans nos cœurs, en disant, OK, c'est ça que tu veux, Dieu, pour moi. Et ça, ça va se faire comme ma belle murale que j'ai vue, là, par la puissance du Saint-Esprit. Il va façonner les choses. Ça va être vraiment spectaculaire. Et avez-vous envie de devenir spectaculaire? Quand Dieu va nous façonner, là, on va avoir la paix et les gens qui nous entourent, ils vont avoir un témoignage de quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui n'a pas de condamnation, quelqu'un qui est libre, mais sans faire de cette liberté-là, une affaire pour faire toutes sortes de conneries. Non, il est libre de servir Dieu. Je suis libre de le servir, pas par contrainte, par amour. Je sais que Dieu m'aime, puis j'essaie à tous les jours de comprendre encore plus comment est grand son amour. Puis c'est juste le Saint-Esprit qui va nous faire comprendre ça. Puis on a tellement besoin du Saint-Esprit. Et je vais terminer avec ce verset-là dans 1 Corinthiens. Et je peux dire qu'un vendredi soir, moi j'étais à la jeunesse à Saint-Jérôme. Et il y avait Jacinthe et Gabriel qui étaient là et une soixantaine d'autres jeunes de diverses églises. Et on a eu un temps de prière qui fait vraiment la différence. Le temps de prière a fini à peu près 10h20, 10h, pas loin de 10h30, où des jeunes ont été touchés, où des jeunes, il y en a un qui me disait, dis-moi juste de voir des jeunes s'avancer, là, ça me bénit extrêmement. Et il y a plusieurs jeunes qui ont avancé, il y a des jeunes qui ont prié les uns pour les autres. Et moi, je me demandais qu'est-ce que serait cette soirée-là, ça a été extrêmement bien. Un bon temps de louange, mais le temps de prière à la fin où le Saint-Esprit a travaillé. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait continuellement aspirer à ça. Et Dieu a besoin de ton esprit. En dehors de ton esprit, là, il n'y a pas de changement possible. Je vais rester comme j'étais au début. Je vais peut-être être super content de dire « je suis sauvé », mais aucun impact, aucun changement. Je reste dans ma petite vie de misère avec ma culpabilité, ma honte, toute la laideur qui a pu se poser sur ma vie, mais il n'y a rien de beau qui arrive. Et la croix, c'est vraiment ça, hein? La laideur du péché contre la beauté du pardon. Puis ça fait tellement de bien de pardonner. Hein? Si vous avez fait un mauvais coup, là, puis vous le dites à la personne, ça fait du bien de dire, je le sais que je suis pardonné. Et si vous avez fait un autre mauvais coup, puis là, vous le dites à Dieu, ah, ça fait du bien aussi d'être pardonné. Parce que le diable, il veut jouer avec la culpabilité. Donc, la misère des êtres humains, les Romains avaient trouvé un supplice dans le supplice de la croix pour vraiment décourager tous les malfaiteurs. Ils disent, si tu fais des mauvais coups, c'est ça qui va t'arriver. Oh, ça ne me tente pas que ça m'arrive. ça a de l'air souffrant. Et ça l'était. Et les Romains ont dit, ça, là, on va décourager les malfaiteurs. La chair est vendue au péché. Peu importe le supplice que tu vas inventer, il y en a qui vont pécher quand même. La peur, ça ne tient pas pour ne pas pécher. Ça ne tient pas. Moi, je me rappelle encore le témoignage d'un gars qui, quand il était en boisson, il était extrêmement baveux. Je l'ai déjà raconté, mais il y en a qui n'étaient pas là. Et à un moment donné, il était en boisson, puis il y a quelqu'un qui l'a pogné, puis il l'a pitché dans un char. Il a failli se faire... Il a brisé le pare-brise, et il était... là qu'il y a un bon soin. Il dit, j'ai eu peur de mourir, mais il n'a pas arrêté de boire. La peur, c'est pas assez fort pour arrêter contre le péché. Pas assez fort. Ça prend l'Esprit de Dieu qui amène une transformation, qui amène de la liberté. Et c'est ça la beauté de la croix. C'est vraiment, les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort sur la croix. Là. On va passer Pâques, il y a des gens qui vont faire ça dans le monde, ils vont se faire clouer sur une croix, puis ils se promènent avec une croix dans des villages. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé là. Et eux sont encore retenus, ils ont peur, ils ne savent pas ce qu'ils vont être. Ils n'ont pas de l'assurance devant Dieu. Ils disent, moi quand je vais arriver au ciel, parce qu'ils croient au ciel, ils ont peur d'aller en enfer, quand je vais arriver, c'était mon cas, quand je vais arriver devant Dieu, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et ils essayent de faire toutes sortes d'affaires pour dire, oh oui Dieu, hein, tu vois que je t'aime. Et s'ils pourraient entendre la voix de Dieu dire, oui je sais que je t'aime, et je sais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as besoin d'un changement. Tu as besoin de te repentir au lieu de faire des actions pour te racheter. Les autres, ils mènent le rachat au lieu de la repentance. Et ils sont quand même retenus dans la peur. Ils n'auront pas l'assurance. Ils ne savent pas trop ce que Dieu va leur dire. Mais pour nous qui avons la foi, on est justifié par la foi, on sait que Dieu va dire, on a voulu le servir, il va dire, viens-t'en, ça va bien, bon et fidèle, serviteur. Et c'est un honneur pour nous de te servir, Dieu. On n'a rien fait d'extraordinaire. On t'a juste servi parce que tu nous as appelé à te servir. Et... dans 1 Corinthiens, 2e chapitre, c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Vous pouvez entendre toutes sortes de bons messages, mais si le Saint-Esprit ne fait pas une œuvre dans votre cœur, ce bon message-là, il demeure juste un bon message. Puis pour peut-être quelqu'un d'autre à côté, ce ne sera même pas un bon message, mais ça va être un message qui n'aura fait aucun effet dans votre vie. Mais ici, 1 Corinthiens, 2e chapitre, et c'est vraiment important ce passage-là. Et l'apôtre Paul, il explique clairement qu'est-ce qui se passe. Au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Amen, ça c'est bon. Est-ce que j'aime Dieu? Donc Dieu a préparé des choses pour moi. « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, pas par notre intelligence. » Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car... qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Êtes-vous content de ça? Avoir la pensée de Christ, avoir l'Esprit de Dieu en nous qui va nous faire comprendre les choses spirituelles. Sinon, ça ne se comprend pas avec l'intelligence. Et encore là, merci Seigneur, c'est une grâce que tu nous accordes. Et l'apôtre Paul, il dit, on vient pas vous parler avec de la sagesse. Il aurait pu en parler avec de la sagesse parce que c'est un homme extrêmement instruit. Et de renommée. Même parmi des rois, il disait, Paul, ton grand savoir, là, c'est en train de te faire divaguer. T'es trop connaissant. Et je lisais un commentaire sur l'apôtre Paul. Là. Il dit, aujourd'hui, il aurait pu discuter avec les scientifiques, il aurait pu discuter avec n'importe quel philosophe, quoi que ce soit. Il était rempli de connaissances. Mais il dit, ça ne me sert à rien. Si j'ai pas l'Esprit de Dieu, ça ne me sert à rien. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu... vous pouvez essayer de faire des pieds et des mains pour vous libérer, de sortir de votre laideur. Même une chose qui est assez terrible, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui parfois est très laide. Et Dieu veut changer ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es libéré. Tu es passé des ténèbres à la lumière, de la vie à la mort. Tu es passé à côté de la honte. Tu es sorti de la honte, la culpabilité, pour vraiment être en paix avec Dieu. Et c'est malheureux, mais il y a beaucoup de gens qui sont même pas en paix avec leur image personnelle, disent « Moi, je ne vaux rien, moi, je ne suis pas bon, moi, je ne suis pas ci, moi, je ne suis pas ça, puis etc., etc. » Mais ça, c'est la laideur des personnes qui nous ont entourés, qui ont mis ça sur notre dos, puis le diable, il veut qu'on croie ça, puis il veut qu'on reste là-dedans. Et Dieu veut nous amener la liberté. Arrêtez d'avoir honte, arrêtez de se sentir coupable, arrêtez de se sentir inférieur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça, c'est un super bon verset. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu va faire un effet dans nos vies. Ça va changer la laideur de notre expérience de vie qu'on peut avoir eu d'une façon terrible pour nous amener à la beauté de la grâce de Dieu, à la beauté du pardon, à la beauté d'être capable d'aimer les autres, surtout d'aimer Dieu par-dessus tout, sans se sentir honteux ou on est... Souvent, on va se sentir indigne. Mais Dieu, lui, nous déclare digne. Voyez-vous le processus? Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu qui va nous révéler les choses de Dieu. Juste par notre intelligence, on a beau lire des livres, on a beau faire toutes sortes de choses, si Dieu ne nous révèle pas sa volonté, ça fait une lettre, et la lettre, ça fait juste tuer. Mais l'Esprit donne de la vie. Et c'est important, je vous encourage, ça... vraiment, dit Dieu, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi, je veux m'approcher de toi, je veux te louer, je veux être rempli de l'esprit. Et je lisais un petit livre de M. Wells sur comment que les assemblées de Pentecôte ont diminué l'emphase sur être rempli de l'esprit. Il dit, qu'est-ce qui faisait la force des assemblées de Pentecôte du Canada, des assemblées en général qui laissent le Saint-Esprit agir? On l'a mis un petit peu de côté pour arriver à plus quelque chose qui est tout de même moins un petit peu impactant, qui fait un petit peu moins peur aux gens. Mais bon, vous avez une affaire. Il y a des gens qui ont eu peur dans des réunions, qui avaient des manifestations de l'esprit, mais ils se sont convertis quand même. Et il y a eu des miracles qui se sont passés, il y a eu toutes sortes de choses. Et l'important dans tout ça, c'est de dire, moi, je veux vraiment, j'ai l'Esprit de Dieu en dedans de moi, je veux vraiment être animé de l'Esprit. Je veux vraiment comprendre ce que Dieu a pour ma vie. Puis arrêter de vivre dans la médiocrité, dit Dieu, je suis ton enfant, tu as quelque chose de spécial pour moi. Peu importe l'image, et Dieu peut changer aussi l'image que vous avez de vous-même. Notre image extérieure est un peu de choses, mais notre image intérieure, elle a fait encore beaucoup plus de dommages. Donc, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et je voudrais juste vous encourager. Et vous encourage à prendre un temps, dire Dieu, par ton esprit, tu peux vraiment faire une nouvelle image de moi-même. Oh, et j'ai essayé, je voudrais l'enlever, mais elle reste impactée en dedans de moi. Et ce fameux rocher, là, il était toujours le même, mais il y avait quelque chose dessus qui l'améliorait beaucoup, qui faisait que je voyais autre chose. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. Dieu, et on a notre chair, mais Dieu veut nous recouvrir de l'Esprit. Qu'on soit vraiment différent. Premièrement, pour nous-mêmes. T'sais, en paix avec nous-mêmes. Et je lisais une pensée cette semaine qui disait, ne prends aucune décision quand tu vas pas très bien puis que tu te retrouves tout seul avec toi-même. Prends pas une décision de quoi que ce soit. Tu es trop vulnérable. Tu as trop l'image de toi, tu as trop toutes sortes de choses. C'est important de dire Dieu. Donc, on va prendre un temps, puis on va prier. Et c'est ça, le temps de prière où le Saint-Esprit veut faire une œuvre, ça c'est important. Donc, on va chanter ce chant-là, on va prendre un temps de prière ensemble. Qui mène nos
nos pieds sur le rocher solide. Alléluia. Tu nous remplis de ton Esprit Saint. Alléluia. Tu nous donnes une vie nouvelle. Alléluia. Toutes choses passées. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Alléluia. C'est ça, les choses passées sont devenues nouvelles. Merci, ô Dieu. Alléluia. Oui, tu as la puissance, ô Dieu, de changer notre honte, Seigneur, en honneur, de changer notre culpabilité, Seigneur. Oui, de prendre notre inquiétude, de changer en assurance. Oui, Seigneur, toutes choses sont possibles en toi, ô Dieu éternel. Oui, alléluia. Oui, ô Dieu, tu changes nos ténèbres en lumière. Alléluia, oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, toutes choses sont possibles en toi. En toi, nous avons tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus, gloire à toi.